Cette émission vous est présentée par Abyss Ingrédients, fabricant d'ingrédients naturels marins et durables.
Sans food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% Food sur Nutri Radio. Chaque semaine avec Uni La Salle, la seule école d'ingénieurs en France qui propose une formation d'ingénieur en alimentation et santé. La semaine dernière, nous étions avec Philippe Pouillard pour parler d'alimentation et de cancer. Et bien aujourd'hui, Philippe est revenu. Il revient en deuxième semaine, enseignant, chercheur, toujours en pratique culinaire et santé, pour nous parler d'un autre sujet tout aussi intéressant. Sur l'alimentation d'hier, du Moyen-Âge, hein, on va aller jusqu'au Moyen-Âge, et le lien avec la santé. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Ça, vous êtes habitué, vous êtes un... Ça y est, vous êtes... faites partie des meubles.
C'est mon moment avec vous.
Faites partie des meubles. Bon, alors, l'alimentation au Moyen-Âge et le lien avec la santé. Est-ce que déjà, à l'époque, il y avait déjà un lien entre l'alimentation et la santé?
Ah oui, bien évidemment, et heureusement. Et pas que, parce que là, on s'arrête au Moyen-Âge. En clair, en France, le Moyen-Âge, c'est de l'an 600 à 1600, hein, ça fait 1000 ans quand même, c'est pas mal. Mais quand on regarde bien les anciens, c'est-à-dire plutôt les Grecs, se préoccupaient de la chose bien avant, hein. Alors les Romains, beaucoup moins, on ripaillait beaucoup plus, mais effectivement, les Pline l'Ancien, les Hippocrates, c'est encore plus vieux, et effectivement, vous avez raison, c'est au Moyen-Âge, en France, on est bien d'accord, hein, parce que je me suis un peu moins préoccupé du Moyen-Âge ailleurs, c'est au Moyen-Âge que l'on réintègre, qu'on réapprend, qu'on redécouvre les Hippocrates et compagnie, de manière à pouvoir, effectivement, vous allez voir, incrémenter cela dans l'alimentation du quotidien.
Alors, l'alimentation médiévale, voilà, disons-le, on pourrait se dire qu'elle était essentiellement composée, vous me direz, hein, mais je sais pas, moi, de céréales, d'épices, par exemple, déjà, pour le côté santé, de légumes, de viande.
Eh bien oui, donc vous avez mis le doigt sur l'essentiel du discours. Alors, je vais quand même le couper en deux, votre discours. Tout dépend de qui parle. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez donc les gens riches, la bourgeoisie, les chevaliers, etc., hein, tout au long des 1000 ans du Moyen-Âge, on est d'accord, hein, je ne fais pas de séparation. C'est-à-dire de ces gens qui vont mal manger, clairement, ils vont ripailler, c'est la cheminée, vous savez, un manteau où on peut insérer un cochon entier dedans ou un demi-bœuf qui va tourner pendant des heures, donc, etc. Donc ça va être les sauces, ça va être la mangeaille de ce type. Et ben ça, c'est la bourgeoisie. Et puis vous avez la paysannerie, qui est quoi à l'époque, faut s'en souvenir, hein, 85% de la population sont des gens humbles, paysans, j'ai pas dit non plus des gens dans la pauvreté, mais qui se contentent de ce que la nature leur apporte, à commencer par les productions agricoles. Certes, ils doivent leur production au Seigneur, mais ils en gardent une partie pour eux. Et vous avez raison, la partie pour eux, ben, ça va pas être les cochons et autres, ça va être plutôt les poules, les lapins, donc des viandes blanches fort intéressantes, et puis, vous l'avez dit, les céréales, les légumineuses.
Les céréales, les légumineuses, j'imagine que vous allez aussi revenir sur les épices, mais vous savez, quand je repense à l'alimentation, vous parliez des porcs, les machins, les grandes viandes, est-ce que finalement, même si on remonte peut-être à une autre époque, mais vous savez, c'est le fameux buffet d'Astérix, ça n'a pas eu une mauvaise influence sur l'imaginaire de ce qu'est le bien manger?
Oui, sans doute. Là, on est dans Astérix, évidemment. Donc, ça fait marrer tout le monde. Mais effectivement, on a les poulards et autres sangliers que nos deux amis utilisent à foison. Oui, bah justement, ça, c'était pas du tout l'image de la paysannerie de l'époque, quoi. Eux, justement, quand ils tuaient un sanglier, c'est qu'il était sauvage. Et encore, ils en donnaient une partie au Seigneur. Donc, vous voyez, donc ils se retrouvaient finalement. Pourquoi j'en suis venu à avoir cette connaissance, hein, j'en suis pas le spécialiste, même si on a écrit un livre justement sur cuisiner comme au Moyen-Âge aux éditions Priva, ça devait être je crois en 2009, quelque chose comme ça. C'est parce que à Uni La Salle, comme vous le savez, donc vous l'avez cité, la formation alimentation est née en 2001. Et en 2001, souvenez-vous, c'est l'avènement du programme national nutrition santé, le fameux PNNS, manger bouger, justement, vous le disiez, des céréales, etc., du poisson, un peu moins de viande rouge et plus de viande blanche, etc., justement, des épices, des herbes aromatiques. Et en découvrant, finalement, si je puis dire, ce que le PNNS prenait, ben, je me suis aperçu en fouillant dans la littérature, hein, souvenez-vous, nous sommes chercheurs, Eh bien, en fait, que l'on racontait la même chose au Moyen-Âge. Alors, notamment dans les années 1200-1300, c'est quand même la fin du Moyen-Âge, où clairement, donc, les médecins réalisaient et rédigeaient des prescriptions médicales, non pas, donc une ordonnance, on est bien clair, hein, non pas sous forme de médicaments qui n'existaient pas à l'époque, mais sous forme de recettes. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais il y a quelque chose à fouiller, c'est trop génial. Puisque manger fait partie des soins, et on le voit encore aujourd'hui.
On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour ripailler ensemble. Ce mot, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Donc on ripaille, c'est sur Nutri Radio, nourrit le corps et l'esprit, juste après ceci.
Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédients présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté, composé de peptides et d'oméga 3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com. Sans food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.
Et une émission encore très intéressante aujourd'hui avec Philippe Pouillard, qui est enseignant-chercheur chez Uni La Salle, pour parler de l'alimentation au Moyen-Âge, son impact sur la santé. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, 85% à peu près de la population à l'époque était d'origine modeste et 15% de privilégiés qui mangeaient plutôt, eux, la viande rouge, etc. Mais est-ce que, en fonction donc, de ces deux catégories, une très. On va dire très importante et l'autre un peu moins. Est-ce que celle qui était un peu moins importante, mais donc plus privilégiée, était en meilleure santé avec cette alimentation plutôt fournie et riche ?
Eh bien, absolument oui. Et donc, on a des livres qui ont évidemment en vieux français, en latin d'abord, puis en vieux français que nous sommes allés rechercher. Hein. Et puis, vous savez, donc nous ne sommes pas des sociologues de l'alimentation, mais je suis allé chercher hein, donc des livres de sociologues de l'alimentation qui se sont exprimés sur tout cela. Et nous, en tant que chercheurs justement impliqués dans le programme national Nutrition Santé, on en a fait des analyses et des synthèses. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a un lien entre les différentes strates socio-économique à cette époque, et la mortalité, parce que la mortalité est déjà référencée, alors plus ou moins bien, d'accord, on n'a pas aujourd'hui des registres de maladies officielles, et donc en fait on s'aperçoit que oui, la durée de vie est plus courte. Alors pour plein de raisons, on oublie évidemment, alors attention à mon discours, hein, on oublie, que ce soit pour les riches et les moins riches, on oublie la problématique qu'à l'époque, on a quand même des dizaines d'années de famine. Donc, il faut effectivement retirer ce gros biais que la famine touchera tout le monde. On est d'accord. Les grandes guerres aussi, la guerre de 100 ans, hein, c'est pas non plus à oublier. Hein. Mais si on met ces deux blocs de côté, et si on regarde véritablement à ce moment-là, on trie dans l'information, effectivement, les populations les plus aisées vivent moins longtemps.
Mais
et les populations, les plus aisées, les plus aisées vivent moins longtemps, et donc les plus humbles vivent plus longtemps. Attention quand même là aussi, parce que les médicaments n'existant pas, et même si l'alimentation, la bonne alimentation est prônée par les médecins, malgré tout, on a quand même toutes les grosses maladies, genre effectivement lèpre et autres viroses qui traînent, et la moyenne d'âge à l'époque devait être un gros bord, 40-42 ans, et je ne peux pas certifier véritablement qu'il y ait une énorme différence statistique, mais en tout cas, il semblerait qu'effectivement, les plus riches avaient moins de chances dans l'histoire, liées notamment à l'alimentation.
Ah, donc, les plus riches, je pensais que c'était une erreur, mais non, les plus riches vivaient moins longtemps.
Tout à fait, au-delà des guerres, la chevalerie, etc.
Ah bah ça, c'est oui, ça doit être lié à l'alimentation, parce qu'ils étaient quand même mieux soignés, moins exposés aux guerres, parce qu'on peut imaginer que ce n'étaient pas les premiers qu'on envoyait au front, etc. etc. Donc, il y avait un lien direct qui a été établi entre cette alimentation.
Et même si le riche avait son médecin personnel, ce sont les plus pauvres, enfin, pas les plus pauvres, les plus humbles, hein, 85%, c'est la paysannerie, ne veut pas dire pauvre pour autant. Et donc, en fait, le médecin se baladait de village en village et allait colporter justement cette alimentation, plantes aromatiques, continuer à manger des céréales. Vraiment, les textes sont assez intéressants. Je n'ai pas mémorisé les grands noms de médecins de l'époque, mais effectivement, on a des textes fabuleux qui nous disent que justement, avec les mots de l'époque, hein, j'aurais peut-être dû réouvrir le livre que j'ai écrit, où justement on voit le médecin qui dit que de manger mal, de faire bombance et autres ripailleries, il ne le dit pas comme ça, hein, ça, ce sont des mots modernes, et autres sauces et autres enfilades de poularde farcie, eh bien, allait pourrir les sangs, S-A-N-G, S, voilà, parce qu'à l'époque, le sang représente quelque chose d'important. Il n'y a pas de médicament, on vous fait des saignées du matin au soir pour mieux vous porter, donc pour eux, ça allait vraiment dégrader le système sanguin, et ils avaient raison.
Est-ce que il y avait des maladies liées à l'alimentation qui sont identifiées, telles que, je sais pas, le scorbut, le rachitisme?
Oui, bien sûr, c'est connu. Enfin, c'est connu. En tout cas, c'est observé à l'époque. On ne comprend pas pourquoi, effectivement, le manque de vitamine C fait qu'on va avoir le scorbut lorsque l'on traverse en bateau du Portugal pour les grands découvreurs jusque l'Amérique centrale. C'est après qu'on l'a compris. En fait, les médecins ne savaient absolument rien. Ça a été uniquement une sensation. Et sauf que cette sensation s'est avérée vraie aujourd'hui, elle a donné naissance à la phytothérapie qui est quand même intéressante, on est bien d'accord. Et le médecin va adopter la théorie des couleurs, c'est-à-dire qu'il va dire, par exemple, et ça, vous parliez de la vitamine C avec le scorbut, tout ce qui est rouge, orange, enfin d'une couleur chatoyante et stimulante, est riche en, appelait-il ça des vitamines, mais en tout cas en molécules intéressantes pour la santé, stimulant la santé. Et on le sait aujourd'hui, le rouge qui renvoie aux tomates, aux poivrons, est riche en lycopène, en vitamine C, le orange aux provitamine A un trou de mémoire, le chercheur qui a un trou de mémoire, où va-t-on ?
Il faut prendre des oméga 3.
Exactement, je vois que vous êtes très renseigné. À l'époque, on mangeait beaucoup de poissons, donc effectivement, les oméga-3. Et donc, tout ce qui est dans les courges, les cucurbitacées, on va trouver à l'époque donc quelque chose de très orangé. Bien qu'attention, les fruits et légumes n'avaient pas la même couleur à l'époque qu'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que la carotte n'était pas orange, elle était noire, elle était blanche. La tomate n'existait pas, donc vous voyez, je renvoie à la couleur de la tomate, mais on s'arrête là, c'est une image. Il n'y avait pas de pommes de terre, souvenez-vous. Il n'y avait pas de tomates, on la trouve plus tard. La courgette était blanche ou jaune, elle n'était pas verte. Mais le médecin va dire de prendre une courgette jaune et moins une courgette verte, l'oignon rouge plutôt que l'oignon blanc. Vous voyez, c'est fabuleux, hein, de retrouver tout ça. Et c'est très éducatif quand on travaille avec des gamins, quand on fait effectivement les périodes au mois de septembre, octobre, la fête de la science, on peut expliquer tout ça à des enfants très facilement.
On va marquer une dernière pause et on va se retrouver pour la suite de ces récits très intéressants qui nous replongent au Moyen-Âge pour l'alimentation, juste après ceci.
Food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.
Avec Philippe Pouillard aujourd'hui, enseignant-chercheur chez Uni La Salle, pour parler de l'alimentation au Moyen-Âge, son impact sur la santé. Alors, très étonnamment, on a vu que finalement, les personnes les plus aisées, qui représentaient 15% de la population, et donc a priori avaient mangé ce qu'elles avaient envie et disposaient des meilleurs médecins, et bien vivaient moins longtemps que les autres. Et donc, le lien avec l'alimentation a été établi. Est-ce que les épices, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce qu'a priori, là, les épices, il y a un retour en grâce des épices pour leurs vertus santé. Est-ce qu'à cette époque-là, elles étaient également utilisées pour des vertus médicinales ?
Absolument, c'est le médecin qui les prescrit, hein, et puis l'herboriste, hein, on ne peut pas parler de pharmacien à l'époque, l'apothicaire, comme l'on dit, hein, qui a donné apothèque en allemand. Effectivement, les épices et les herbes aromatiques sont plus que plébiscitées. Alors aujourd'hui, on va plutôt chez un épicier en acheter, et puis avec toutes ces sourcings ethniques, où on peut trouver aujourd'hui un certain plein d'épices. Perso, à la maison, vous voyez, je pense que j'ai, si je vous dis 40 épices, c'est à peu près ce que j'ai, que j'utilise chaque semaine, au moins une dizaine, voire plus, assurément. Et je tourne sur le mois, je suis sûr que les 40 y passent. Effectivement, vous avez raison, ça revient au goût du jour. Pourquoi ? Parce que c'est bon, ça fait plaisir. Ça peut être considéré comme cher, c'est pas faux, mais on n'en met qu'une pincée aussi. On est à des doses culinaires qui, effectivement, sont riches en antioxydants. On parlait tout à l'heure, et d'ailleurs ce trou de mémoire me fait rappeler que je voulais parler des bêta-carotènes hein, dans les sources de végétales oranges. Bon, on va trouver effectivement plein de bêta-carotènes dans du curcuma, ce genre de choses. On va utiliser du gingembre, qui sont toutes ces épices ou herbes aromatiques dépuratives, vont soulager les maux de tête, etc. Le médecin savait tout ça d'une manière intuitive ou vérifiée, en tout cas vérifiée de par le retour qu'il avait avec les familles qu'il suivait.
Et alors, vous parlez des épices tiens, que vous utilisez, petite parenthèse, quelles sont vos épices préférées, vous Philippe, vous en avez 40, c'est pas mal quand même.
Ce que je préfère, allez, le gingembre, j'aime beaucoup parce qu'il a plein de fonctions digestives, il est comme on dit cholagogue et carminatif, ça y est j'ai envoyé des mots scientifiques, tout ça pour vous dire qu'il stimule la sécrétion de bile, donc il accélère la digestion de nos aliments, et puis il stimule le transit intestinal, et puis il stimule, il est anti-inflammatoire au niveau buccal, donc en fait du haut en bas, si vous voyez à l'image, il est intéressant, et ce produit qu'on peut trouver en poudre, sous forme de racines, vous le savez bien, donc on peut utiliser dans la cuisine de chez nous, mais aussi dans une cuisine ethnique, bien évidemment.
Bon, en tout cas, on vous remercie effectivement pour cette belle image. Et alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette alimentation au Moyen-Âge et du lien avec la santé? De quoi on a hérité des bonnes pratiques, évidemment hein.
Ce dont on parlait en début d'émission, c'est-à-dire justement cette rationalité dans comment manger. C'est-à-dire favoriser les fruits et légumes. Vous savez, tous ces produits qui viennent vraiment du sol, de la terre. D'ailleurs, à l'époque, la paysannerie dont je parlais tout à l'heure mangeait tout ce qui touchait le sol. Qui dit pauvreté égale toucher le sol à l'époque. Ben oui, c'est une image, une de plus. Et tout ce qui était aérien, plus haut sur pattes et autres, était pour les riches. Et donc, effectivement, on retiendra ça. On retiendra aussi des techniques culinaires. N'oubliez pas, hein, effectivement, je suis enseignant en pratique culinaire et santé. C'est-à-dire, on mijotait des choses longtemps, de manière à, même si les viandes, quand il y en avait, dans la paysannerie, j'entends, étaient peut-être un peu dures, parce qu'on leur laissait évidemment les bas morceaux, n'est-ce pas? Le riche se servait avant. Eh bien, le fait de cuire longtemps, de mijoter parce que on lançait le feu à domicile le matin, la flamme allait s'éteindre 2 heures plus tard, sauf qu'on était parti au champ pendant 12 heures pour travailler, et souvenez-vous, le manger bouger du programme national nutrition-santé nous revient à la face, donc on garde ça en mémoire aussi, manger bouger, et ce feu qui allait s'éteindre allait cuire finalement à chaleur tombante pour que le soir, le mijoté soit prêt à manger quand on rentre du champ avec les enfants qui bossaient aussi, malheureusement, bien sûr, parce qu'ils bossaient évidemment à l'âge un peu trop jeune. Mais voyez, donc on garde ça, des techniques culinaires de mijotage pour éviter de bousculer et de trop cuire, surcuire des aliments. Et puis on garde, je l'ai dit, le manger-bouger. Ça serait déjà pas mal.
Et alors, vous parlez de cuire longtemps. Donc prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de bien faire cuire les aliments à petit feu, mais je voudrais aussi, peut-être une fenêtre d'ouverture sur la fermentation. J'ai l'impression que tout ce qui est décoction, fermentation, j'ai l'impression que ça revient à la mode.
Ah oui, ça revient à la mode. Alors par contre, cette fermentation n'est pas forcément d'origine moyenâgeuse.
Hein. Ah voilà, ben ça c'est...
Non, ça existe depuis vachement plus longtemps, si vous voulez. Bah écoutez, il y a le vin, il y a le pain, et puis les fromages. Donc là, on remonte bien avant le Moyen-Âge. Là, on s'arrêtait aujourd'hui au Moyen-Âge, mais effectivement, on aurait pu repartir beaucoup plus loin, parce que là, c'est connu effectivement depuis longtemps.
D'ailleurs, la macération.
On s'est fait par hasard au départ.
La macération.
Ouais, alors, au Moyen-Âge, on est plus dans des macérations, mais à vocation de santé, qui est vraiment le thème là, sur lequel on se focalise aujourd'hui. On pense vraiment à la santé. Alors qu'avant, les fermentations, bah, c'est tout, c'était plutôt le plaisir. D'ailleurs, on revient sur les Romains, qui en termes alimentaires étaient plutôt un peu moyens. Mais par contre, bah, oui, ils ont été à l'origine il y a le vin, la bière aussi, bien évidemment, j'allais l'oublier, qui sont des fermentations, mais qui sont des fermentations plaisir.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des ingrédients santé en particulier qui sont encore utilisés, qui ont été scientifiquement, dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement, pardon?
C'est une question très large, oui, mais il y en a plusieurs, si vous voulez. Effectivement,
le curcuma, par exemple.
Alors, je vais vous faire deux réponses. Si on reste sur un aliment, hein, et non pas une épice, on pense à des choses comme l'artichaut. On pense à des choses comme toutes les courges courgettes, toutes les courges au sens très large, la grande famille des courges, y compris potiron, potimarron, etc. Vous êtes bien d'accord? Et les choux, la famille des choux, le chou est un quasi-médicament. C'est pour ça qu'on fait une eau, on blanchit le chou une première fois avant de réellement le cuire et de le manger, parce qu'il est tellement chargé en micronutriments divers et variés sur lesquels je ne reviendrai pas, ça pourrait être un peu long, qu'effectivement on pourrait avoir des petits effets qui sont effectivement des effets dérangeants, à savoir une fermentation même tellement forte que l'on en ait des banalements et donc des flatulences, allez, le mot est lancé, et donc il faut effectivement, il y a toujours une contrepartie, hein, quand il y a quelque chose de positif, il peut y avoir des effets négatifs aussi, hein, c'est comme un médicament. Et puis donc, si vous parliez d'épices, oui, ben, dans les épices ou les herbes aromatiques, ben, vous savez, bon, l'oignon n'est pas une épice, mais d'ailleurs au Moyen-Âge il est considéré comme un aliment pur, on en mange d'ailleurs 200 grammes d'un seul coup, hein, d'où d'ailleurs c'est certainement un transit un peu bousculé. Non, mais les meilleures épices, je l'ai dit, c'est probablement puis un petit peu de tout, vous savez, j'ai du mal à trouver un argument pour défendre une épice plus qu'une autre, mais on va de nouveau parler du gingembre.
Et bon, bah écoutez, voilà, ça c'est celle que vous préférez et l'ingrédient de prédilection donc de Philippe Pouillard. Merci beaucoup. Vous savez, c'est ce genre d'émission, on peut en parler pendant encore très longtemps parce qu'il y a plein de sujets. Vous savez, la viande notamment, voilà, les bénéfices d'une alimentation moins riche en viande rouge. On en a parlé déjà aussi la semaine dernière. Là encore, un peu plus, quand on plonge dans le Moyen-Âge, on voit que finalement, ne pas en manger, bah, on vivait plus longtemps. Il y a un vrai lien de cause et effet.
Tout à fait. Et puis, pour être bref, la viande d'aujourd'hui ou les légumes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, non pas à travers la couleur dont je parlais tout à l'heure, mais cette fois-ci le profil nutritionnel. C'est clair qu'à l'époque, on chassait. Aujourd'hui, on élève. Donc, on veut élever nécessairement. On est dans une école d'agriculture. Vous entendez bien qu'on peut élever de différentes manières, d'une manière conventionnelle, d'une manière moins conventionnelle. Et effectivement, au final, on a une offre devant nous. C'est aussi à la famille de faire ses choix. Alors, je sais qu'ils sont dictés par la loi économique, mais également de faire ses choix du manger, bouger, et que l'alimentation fait partie de la santé et d'en tenir compte dans ses choix.
Merci Philippe Pouillard, merci d'avoir été avec nous pour cette émission et l'émission aussi de la semaine dernière. Celle-ci, vous la retrouvez à partir de 18h en podcast si vous venez de nous rejoindre, bien évidemment. Merci Philippe, au revoir.
Je vous en prie, bon appétit à tous.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Sans food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.